Chers auditeurs et auditrices, bonjour. J'ai la joie et le privilège de recevoir aujourd'hui M. l'abbé Cellier, Grégoire Cellier, donc prieur de Notre-Dame de la Consolation à Paris. Monsieur l'abbé, je crois que vous avez mené une campagne de travaux de rénovation sur cette chapelle assez particulière. Est-ce que ces travaux continuent ou est-ce que vous en avez vu la fin, le terme, l'épanouissement?
Hélas, si je puis dire, nous en avons au moins pour 4 ans encore, hein, donc 4 à 5 ans encore, mais cela avance très très bien, c'est un très très beau chantier, très technique, d'une haute technicité, puisque c'est un bâtiment classé avec du plomb, avec toutes sortes de choses vraiment très intéressantes, de la dorure, et donc c'est à la fois très lourd à porter parce que évidemment il faut être investi de près surtout dans le financement, mais
c'est surtout une très belle cause que de vous aider à rénover cette chapelle, voilà. Puisqu'elle avait été édifiée
en mémoire des victimes de l'incendie du bazar de la Charité, voilà, c'est le mémorial de l'incendie du bazar de la Charité,
donc on peut vous aider en s'adressant, j'imagine.
Alors, on peut aider à la Fondation du patrimoine. Nous avons une collecte à la Fondation du patrimoine, Notre-Dame de Consolation.
En précisant bien Notre-Dame de la Consolation.
Consolation, voilà.
Alors, monsieur l'abbé, vous aviez écrit il y a quelques années deux ouvrages en lien avec l'antilibéralisme catholique. Et cette fois-ci, vous choisissez de publier un seul volume des deux, en remaniant, si j'ose dire, l'ensemble, pour en faire un tout un petit peu plus, je dirais, refondu, plus organisé, plus structuré, plus logique dans sa construction et dans sa démonstration.
Alors, si vous voulez, j'ai fait, donc c'est un travail qui dure depuis près de 45 ans, donc je commence un petit peu à connaître le sujet, mais donc en fait, j'ai fait, en 1986, j'ai fait un ouvrage de bibliographie, n'est-ce pas, que j'ai repris ici, je veux dire, en substance, même si je l'ai complété, amélioré, et puis j'ai fait en 2004 un volume plus doctrinal, sur ce qui est historique, si vous voulez, historique et doctrinal, sur ce qu'est l'antilibéralisme, dont j'étais pas satisfait, car il avait été fait trop vite, il avait été fait de façon imparfaite. Et donc, à la demande de l'éditeur, j'ai repris à fond, alors là, vraiment, cette grande première partie, la partie doctrinale et historique, pour vraiment, je dirais, donner mon sentiment, enfin, mon approche définitive sur la question. Sur une question, donc l'antilibéralisme catholique, qui est très peu étudiée, qui est très peu développée, alors que ce fut un mouvement très important, notamment au XIXe siècle, qui est, bon, la période qui m'intéresse, puisque j'ai publié un livre chez un excellent éditeur qui s'appelle Le 19e parallèle, qui était, lui, sur le nationalisme et le catholicisme.
Pendant, oui.
Voilà, donc plus littéraire et politique. Mais là, j'ai voulu vraiment manifester.
On retourne aux principes.
Voilà,
manifester. En même temps qu'aux acteurs.
Voilà.
Principaux. Et d'ailleurs, vous parlez d'hommages que je pouvais rendre au mieux aux maîtres qui ont illuminé ma jeunesse.
Voilà. C'est effectivement, ce sont des gens que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert à travers un cours que nous avions reçu au séminaire, et par un clin d'œil de la Providence, j'ai trouvé dans une librairie, on dirait improbable aujourd'hui, la grande somme historico-doctrinale sur le libéralisme, qui s'appelle l'histoire du catholicisme libéral et du catholicisme social par l'abbé Emmanuel Barbier, que j'ai acheté juste avant des vacances. J'ai lu pendant les vacances cet ouvrage-là, si vous voulez, pratiquement au départ de ma formation ecclésiastique. Et donc, ça m'a enthousiasmé, intéressé, passionné, notamment parce que ça se coordonnait, bien sûr, avec ces travaux que j'avais faits avant d'entrer au séminaire autour du nationalisme français et qui a conduit à ce fameux livre, Le 19e parallèle, que j'ai édité donc il y a à peu près 2-3 ans.
Alors, vous commencez par un chapitre consacré au libéralisme philosophique.
Voilà. Alors, toute la question, si vous voulez, c'est qu'il faut remonter. C'est l'antilibéralisme catholique. une expression qui est un petit peu ambiguë, parce qu'on aurait l'impression que ça serait combattre, d'un point de vue catholique, le libéralisme, donc philosophique ou autre. En réalité, ce n'est pas ça.
Parce que chez les anciens, dans l'Antiquité, un être libéral,
ah, en latin, c'est quelqu'un qui donnait généreusement.
Voilà. Voilà. C'est la libéralité.
Voilà,
C'était finalement quelqu'un juste, d'un excellent naturel.
On vient d'entendre cela à cette antenne. Faites des libéralités à Radio Courtoisie. Voilà. Mais
non. Le mot à l'origine, dans l'Antiquité latine, était, et même on peut dire jusqu'au Moyen Âge. Était employé dans un
très, très bon sens.
Tout à fait.
Et même aujourd'hui, donc les libéralités.
Édifiant.
Voilà. Et également, les travaux libéraux, les professions libérales, c'est celles où l'intellect est plus mobilisé que le corps, si vous voulez. Hein. Donc les avocats, les médecins, etc. C'est donc les professions dites libérales. Mais bon, évidemment, ce n'est pas ce sens-là. Mais dans l'antilibéralisme catholique, là où il y a une ambiguïté, c'est qu'on a l'impression combattre le libéralisme d'un point de vue catholique. Alors que très spécifiquement, c'est combattre, ou c'est anti-libéralisme catholique. C'est-à-dire une version du libéralisme qui se prétend catholique. D'accord ? Mais au départ, d'abord, puisque c'est une version du libéralisme, ou une version du catholicisme qui se prétend libéral, une version du libéralisme qui se prétend catholique, il fallait expliquer au moins sommairement ce qu'est le libéralisme par rapport évidemment à notre sujet, pour poser une base, pour que les gens ne débarquent pas.
C'est la raison pour laquelle vous préférez qu'on dise quelques mots de ce libéralisme catholique avant de parler du libéralisme philosophique.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et vous avez commencé à parler d'une expression à double sens.
Voilà, c'est ça. C'est ça, là, si vous voulez, on aurait tendance à comprendre, c'est un combat contre le libéralisme, qui est en réalité, je montre qu'il est consubstantiel à l'Église catholique. L'Église catholique enseignant une vérité obligatoire pour tous sous peine de damnation éternelle, on va simplifier comme ça, c'est contraire au libéralisme qui dit chacun est libre de ses pensées et de ses choix, je dirais, intellectuels ou autres.
Oui, puisqu'elle s'appuie sur la révélation.
Voilà.
Bon. Et sur la tradition en même temps. Ouais. Donc effectivement. Donc cette opposition catholique au libéralisme est intrinsèquement.
Voilà. Mais donc ce n'est pas cela dont traite notre ouvrage. Même si je le rappelle pour mémoire, pour qu'on saisisse bien ce qu'il va y avoir de commun avec le libéralisme dans le libéralisme catholique et ce qu'il va y avoir de différent, bien sûr.
Donc c'est cela. Alors d'abord, étude historique et doctrinale. Donc être libéral au sens classique, déjà. Ouais. Avec saint Thomas d'Aquin, libéral est celui qui est capable de donner facilement, largement, c'est un synonyme de généreux, et cela vise une vertu. Il est évident que l'école de l'antilibéralisme ne combat pas la charité, la largesse, la munificence. Elle libérale également ce qui se rapporte au travail d'un homme libre, et c'est ainsi que l'on parle des professions libérales. Et vous m'expliquiez avant cette émission qu'au Moyen-Âge, et même au-delà du Moyen-Âge, on pratiquait une forme de libéralisme économique, dans le sens où certaines rues pratiquaient certaines professions, et qu'entre elles, il existait une sorte d'émulation saine.
Voilà. Si vous voulez, la loi Le Chapelier, 1791, supprime les corporations qui ne visaient en fait que certains métiers, non pas tous, et un certain nombre de métiers avaient la liberté d'entreprendre. Mais les corporations, une des règles des corporations, c'est que, je ne sais pas moi, les ivoiriers ou les menuisiers devaient se rassembler dans une seule rue, de façon à ce que le client puisse voir les divers menuisiers ou ivoiriers et choisir entre eux. Et même, il était imposé qu'ils travaillent à la vue du public, de façon à ce qu'on voit quelles pratiques ils avaient, et qu'on se dise, oh non, lui, il m'a l'air de travailler un peu bricolo, je ne vais pas aller chez lui. Donc, dans la réalité, même les corporations, dont on peut discuter la pertinence aujourd'hui, parce que le monde, évidemment, industriel a complètement changé par rapport à l'artisanat médiéval, si vous voulez, ou même du 19e. Mais néanmoins, il y avait en fait des correctifs à cette obligation des corporations par le fait que c'était tous les gens de la profession étaient rassemblés et on pouvait choisir entre eux.
Alors, tout va changer, on peut dire, à partir du 18e siècle ?
Par rapport
au libéralisme philosophique, justement.
Alors, voilà. Le libéralisme dont j'essaye de faire l'histoire, mais techniquement, le libéralisme dont on parle, c'est effectivement la philosophie des Lumières, en gros.
C'est ça.
Qui se libère, donc, c'est ça la question, le libéralisme, c'est se libérer.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Voilà, ce n'est plus référé à une vérité, ce n'est plus référé à une nature, ce n'est plus référé à un ordre des choses, c'est référé à autrui, si vous voulez. La déclaration des droits de l'homme, hein, la liberté de l'un s'arrête là où commence la liberté de l'autre, mais à l'intérieur de cela, bien entendu, les libéraux ne sont pas des idiots, hein, ne manquons pas de respect à des gens qui ont été aussi des gens très, très brillants, hein. Ils reconnaissent les limites physiques. J'ai un corps que je ne peux pas changer de. Ils reconnaissent aussi les limites sociales. C'est-à-dire que je ne peux pas, je dirais, faire n'importe quoi, parce que sinon la vie en société est impossible. Mais ces deux limites étant acceptées, plus ou moins, je dirais, modulées selon les époques, on va dire, eh bien, à l'intérieur de cela, sans avoir besoin de me référer à une vérité quelconque qui serait partagée, je peux faire ce que je veux. Voilà.
Le libéralisme renvoie à une conception de la liberté qui est un affranchissement total, on peut dire, à la fois de la loi naturelle et de la loi, évidemment, surnaturelle.
De la nature, si vous voulez. La liberté est une composante de notre volonté spirituelle, elle-même ancrée dans notre âme spirituelle, qui nous réfère à une nature humaine à la fois spirituelle et corporelle.
C'est une forme d'idolâtrie, la liberté.
Si vous voulez, on déconnecte. Si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui vous dirait « Ah, je vais !» Excusez-moi, vous allez où ?« Je vais !» Non, vous allez quelque part. Ça peut être d'ailleurs simplement « Je vais me promener », peu importe. Mais le libéral, c'est ça. La liberté, c'est je peux, j'ai droit, et après vous mettez là-dedans ce que vous voulez, peu importe ce que vous faites, même si vous faites du mal mais à vous-même, en soi, si vous voulez, même si socialement, c'est souvent, par exemple, une des libertés libérales évidentes en soi, c'est le suicide. J'ai le droit de faire de ma vie de ce que je veux. Alors, il y a des limites parce que socialement...
C'est une actualité brûlante.
Voilà, socialement, ça paraît un peu difficile à supporter, mais néanmoins,
Il prône la liberté du suicide, il admet aussi que du suicide peut découler des séquelles plus ou moins graves s'il est raté, ou la mort s'il est réussi.
Voilà. Encore une fois, quand j'explique ce qu'est le libéralisme philosophique, je veux bien montrer quand même que les libéraux ne sont pas des idiots.
Non.
Parce que sinon, on est à côté de la plaque. Donc, effectivement, ils acceptent, encore une fois, des conséquences. Par exemple, je pose des actes libres, je me saoule, je pose la tragédie, je tombe parce que je suis sous dans un trou, voilà, c'est la conséquence de mon choix, si vous voulez. Et ils acceptent que, on va pas se plaindre en disant comment...
Vous résumez tout en disant que l'homme devient la seule norme pour l'homme et que ça découle sur la revendication permanente de droit.
Voilà, alors c'est effectivement, à partir du moment où... L'essentiel, si vous voulez, l'État libéral, tel qu'il s'est petit à petit mis en place, est un État qui protège et garantit ma liberté. Voilà. Qui ne cherche pas un bien commun, qui ne cherche pas, je dirais, que chaque homme puisse s'améliorer dans la vertu, ce qui est l'État classique. Il s'agit simplement qu'il y ait des limites qui, à la fois, assurent de la sécurité, assurent de la tranquillité, assurent de la, un certain bien-être matériel, à l'intérieur duquel je puis exercer ma liberté. Mais de ce fait-là, puisque je vais réclamer cette liberté, et selon les circonstances, je vais la demander de plus en plus grande, de plus en plus forte, et on est effectivement dans un état dans lequel on accumoncelle, si je puis dire, les droits au détriment de toute vie sociale et de toute vie en commun.
C'est une forme d'individualisme exacerbé.
Ben, je puis faire, à partir du moment où je respecte les lois de la nature corporelle et les lois de la nature sociale, si vous voulez, je puis faire absolument ce que je veux. Hein, et personne ne peut m'en empêcher, n'a le droit. Quelqu'un peut me le faire, pas, évidemment, mais n'a le droit de m'en empêcher. Et l'État est là pour garantir mon droit à faire n'importe quoi.
C'est ce que vous appelez la libération libérale.
Voilà. Mais nous sommes dans ce monde-là. Oui. Nous sommes complètement dans ce monde-là.
Je dirais même que cette conception-là fait l'unanimité. Aujourd'hui, gauche à la droite.
Nous sommes complètement. Ce qui s'appelle la droite est en réalité le libéralisme aussi, si vous voulez, avec des modulations. Mais nous avons eu le mariage des homosexuels. Nous avons la loi sur l'euthanasie, d'accord ? Et dans ces deux lois, ces partisans disent à ceux qui sont contre, Après tout, vous n'êtes pas forcé de l'utiliser, mais laissez les autres le faire.
Oui.
C'est typiquement le libéralisme. Oui. Alors que, et si vous voulez, est-ce que, par rapport à une conception du bien commun et du but de l'être humain, est-ce que tuer les gens en état de faiblesse, les gens en état de désespoir, est effectivement ce qui va servir à ce que tous progressent vers un meilleur? Je n'en suis pas sûr.
C'est ce qui fait qu'on est dans une logique dite progressiste, qui fait que les progressistes expliquent à ceux, aux conservateurs, ou du moins à ceux qui ne partagent pas leur sens des libertés, que ce sont des êtres finalement relativement dogmatiques et étriqués, puisqu'ils empêchent à d'autres de gagner de nouveaux droits, alors qu'eux-mêmes ne perdent pas pour autant les leurs.
Voilà, c'est toute la dialectique effectivement du progressisme qui vous dit « ce sont des droits que vous n'êtes pas forcé d'utiliser, laissez-en le bénéfice aux autres ». Mais encore une fois, est-ce que effectivement la liberté est déconnectée d'une vérité et d'une nature, ou bien est-ce que c'est un élément d'une nature qui va vers un certain but intrinsèque à cette nature? C'est là toute la, je dirais, toute l'opposition entre effectivement une approche qu'on appellera de loi naturelle, une approche de pure, comment dirais-je, conception d'un mouvement quelconque. Voilà, du moment qu'on peut évoluer dans ce sens-là, allons-y.
Alors commençons par évidemment la critique du libéralisme, puisque vous expliquez que la véritable liberté humaine ne consiste pas à choisir entre le bien et le mal.
Voilà, alors la liberté, c'est une dimension de notre volonté, et notre volonté va toujours vers le bien, c'est sa définition, elle va toujours vers le bien. Et donc, effectivement, je ne peux pas choisir de ne pas aller vers le bien, puisque c'est intrinsèque à ma volonté, à ma détermination de nature, et que toutes les natures vont vers le bien. Et ensuite, à l'intérieur de cela, je suis déterminé par ce que je suis. Le chien a une certaine nature qui va vers un certain but, le cheval a une certaine nature qui va vers un certain but, et l'homme a une certaine nature qui va vers un certain but. Et donc je ne peux pas choisir ce but parce qu'il est inscrit dans la nature que je suis, ce pourquoi je suis fait.
Deviens ce que tu es.
Voilà, par exemple, c'est même les plus grands menteurs détestent qu'on leur mente, parce que ils désirent, leur intelligence désire la vérité, même s'ils veulent rouler les autres, mais et ils désirent pour eux-mêmes la vérité. Nous sommes faits pour la vérité, nous sommes faits pour le bien. Donc, la liberté, le chien, en revanche, si vous voulez, il a une certaine nature, il a un certain but de cette nature, mais les moyens de l'atteindre sont déterminés en lui, par les instincts qui le dominent. L'être humain, lui, il a un certain but, qui est conforme à cette nature, mais il a le choix des moyens. C'est-à-dire, effectivement, admettons, je dois me loger. Hein, bon, il y a en France quatre races d'hirondelles. Chacune fait un nid différent. Il y a quatre types de nids en France pour les hirondelles, parce que c'est leurs instincts qui les guident. Les êtres humains, pour se loger, ils font à leur goût, et il y a une variété. Voilà, et voilà, il y a une variété d'habitations humaines qui est le fruit de la liberté. Je décide de construire comme ça, en bois, en pierre, en peu importe, en plastique, n'importe quoi, ça n'a pas d'importance.
Mais la finalité.
Mais s'abriter, se mettre à l'abri, ça, c'est pas mon choix. c'est par rapport à ma nature, sinon je vais mourir, par exemple. Vous voyez?
Ma raison, écrivez-vous, peut hélas se tromper, je peux tomber dans l'erreur. Et j'y tombe effectivement. Pourtant, personne n'a jamais affirmé que se tromper soit une qualité, un bienfait, une joie, une grâce. Au contraire, je suis humilié lorsque je m'aperçois de mon erreur.
Voilà. Donc effectivement, l'intelligence est faite pour la vérité. Et ça, finalement, tout le monde le partage. Mais que la volonté soit faite pour le bien, le libéralisme le conteste. Si vous voulez, il dit non, c'est fait pour le bien tel que je le décide souverainement. Mais non, c'est fait pour une vérité objective liée à ma nature, c'est fait pour un bien objectif lié à ma nature. Hein, et au but, évidemment, que le Créateur m'a donné en me créant. Mais si vous voulez, voilà, et on dit je peux faire n'importe quoi, mais en fait, personne ne considère qu'on peut penser n'importe quoi. Et d'ailleurs, actuellement, vous savez, sur le vivre ensemble, la démocratie, etc., les FACNEV, etc., tout ce que vous voulez, alors on dit, bah, c'est que répandre des vérités, des fausses vérités, des erreurs, etc. C'est très grave et il faut pas le faire. Ben, pourquoi pas? Si on est vraiment un libéral, pourquoi pas prôner l'erreur, après tout, c'est un droit de chacun. Mais non, on s'aperçoit que ça va pas, si vous voulez.
Vous allez plus loin, puisque vous écrivez « Le libéralisme prend comme axiome général et fondateur ce qui, en son sens premier, ne représente que la tolérance d'un mal dont l'éradication immédiate apporterait plus de nuisances que de profits. »
Voilà, si vous voulez, le libéralisme, prend acte de certains...
Il fait semblant d'être une forme de pragmatisme.
Voilà, si vous voulez, il y a dans la société des choses mauvaises que la société ne va pas interdire, parce que sinon la vie deviendrait impossible. Je donne l'exemple de celui qui s'enivre chez lui sans faire de scandale. Pour que la société puisse empêcher cela, ce qui est par exemple le cas d'un cabaretier, un cafetier qui vend de l'alcool à un alcoolique, à quelqu'un qui est déjà sous, oui. Il est coupable, d'accord? Mais là, vous avez quelqu'un qui est chez lui, qui ne fait pas de scandale, c'est une mauvaise chose, il se saoule, et c'est pas bon pour sa santé, tout ce que vous voulez. Mais si la société voulait empêcher cela, elle devrait mettre des caméras dans les maisons, ce qui serait, contraire à la vie sociale. Donc effectivement, il va y avoir une tolérance, on va dire, écoutez, on ne vous condamnera pas, on ne vous poursuivra pas si vous faites quelque chose de mal, mais dans un certain cadre, on va le laisser faire. Et en fait, le libéralisme étant cela, qui est à des cas précis et limités pour un bien social supérieur, à toutes les actions, je peux faire n'importe quoi pourvu que je ne fasse pas de mal aux autres. Mais non, c'est dans la réalité. Encore une fois, on le voit très bien. Actuellement, se répandent des fausses nouvelles, etc. Bon, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Et alors, on veut réguler ça. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que non, cette liberté-là est très malsaine.
Bien sûr, mais on prend aussi prétexte de réguler ces idées-là.
Ah oui, après, c'est autre chose.
Pour imposer des idéologies.
Voilà. Après, c'est
une vision du monde. Voilà. Et une vision.
Et je veux dire, la démarche telle qu'elle est présentée, oui. Si vous voulez,
elle est présentée comme vertueuse.
Voilà, alors qu'elle est contradictoire avec le libéralisme dans son essence.
Alors, vous citez Daniel Robbs, l'historien bien connu que j'aime particulièrement, j'apprécie particulièrement, qui écrit le problème auquel depuis le lendemain de 1789, la pensée catholique se trouve confrontée, n'est pas résolue. Quelle attitude prendre à l'égard du monde issu de la Révolution? Faut-il l'accepter ou le rejeter? Dans la pratique, comment juger le régime des libertés modernes, liberté politique, liberté de conscience, de presse, de culte? Doit-on l'approuver ou le tolérer seulement ou le combattre?
Alors effectivement, donc là on commence à rentrer dans la question... Du libéralisme catholique et de l'antilibéralisme catholique, qui tend donc le libéralisme classique, etc. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est que la Révolution française rompt avec un État qui cherche effectivement la vertu, avec les limites, etc., tout ce que vous voulez, mais qui cherche une certaine vertu...
notamment, vous appelez ça le jeu des trois familles, d'ailleurs.
Voilà, notamment à travers une religion unique, si vous voulez. Et qui va établir l'État libéral. L'État libéral, alors, avec la terreur, tout ce que vous voulez, mais c'est pas ça la question. L'État libéral, c'est-à-dire l'État qui se contente de protéger les libertés sans chercher véritablement un bien commun. Alors, disons que le bien commun, c'est la défense des libertés. Et le catholique se trouve dans une société qui est basée sur ce libéralisme. Et donc, il se pose la question, comment je dois vivre par rapport à cela? Est-ce que je dois combattre ces libertés? Est-ce que je dois user de ces libertés pour un bien commun? Est-ce que je dois user de ces libertés en estimant qu'elles sont bonnes? Et ça va être effectivement, la grande question qui va agiter ce combat entre les libéraux catholiques et les anti-libéraux catholiques au XIXe siècle en particulier, n'est-ce pas? Mais dans un chapitre, si vous voulez, donc normalement j'aurais dû avoir... trois chapitres. Libéralisme, libéralisme catholique, antilibéralisme catholique. Normalement, ça aurait dit ça. Mais j'interromps après le libéralisme par un chapitre intermédiaire parce que je veux montrer à travers les travaux, notamment d'Émile Poulain, mais d'un certain nombre d'autres qui ont travaillé là-dessus.
Pour vous, d'ailleurs, c'est un des plus grands maîtres.
Voilà. Dans le genre, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect intellectuel.
Avec tous les travaux qu'il a fait sur Benigni.
La Sapinière, le Sodalicium Pianum. Mais, si vous voulez, la question, c'est qu'en fait, il y a une petite ruse, c'est que au XIXe siècle, le monde catholique se divisait pas en deux, libéraux et antilibéraux, il se divisait en trois, libéraux, antilibéraux, et religion dite bourgeoise, qui est une expression des sociologues, mais qui ne vise pas des gens riches, etc., qui vise une certaine approche de la religion, qui consiste à mettre de côté telle ou telle partie d'un enseignement apparent de l'Église en disant « ça, ça ne regarde pas l'Église ». Alors je donne des exemples, par exemple au XIXe siècle, le vote chez les paysans français est déconnecté de leur pratique catholique parce que les républicains de la fin du XIXe siècle leur proposent un programme politique qui leur convient mieux que le programme de la droite catholique, et donc ils votent pour des républicains anticléricaux, alors qu'eux, ils sont des cléricaux, ils sont des catholiques, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on appelle le catholicisme bourgeois, la déconnexion d'une part... Donc ils résolvent le problème, si je puis dire, en disant ben ça regarde pas l'Église. Alors je donne d'autres exemples. Je donne par exemple l'exemple des entrepreneurs au XIXe siècle qui ne respectaient quand même aucune règle, je dirais, raisonnable par rapport à leurs ouvriers, ou bien
avec l'avènement de l'ère industrielle, voilà, on a eu tendance à...
voilà.
Bon, à exploiter l'humain.
Voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, là où l'Église rappelait quand même qu'il faut respecter les êtres humains, en disant « ça ne regarde pas l'Église, parce que c'est l'industrie, elle n'y connaît rien ». Et je donne l'exemple d'aujourd'hui, dans lequel c'est très clair, des gens qui vont à la messe, qui pratiquent, etc., et qui, pour les mœurs, on va dire, sexuelles, sont totalement déconnectés d'un enseignement officiel qui se trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, mais qui considèrent comme étant non pertinent de la part de l'Église.
Là-dessus, vous citez encore Daniel Robbs, il y a une incroyance des prétendus croyants qui consiste à ne pas vivre dans les circonstances quotidiennes, dans les relations sociales, la foi dont on se réclame. La dichotomie qui fait de l'existence deux parts, une où l'on accomplit plus ou moins les gestes religieux, une autre où on agit en dehors de toute loi chrétienne, est une attitude bourgeoise de plus en plus répandue.
Voilà. Alors, si vous voulez, ceci introduit, donc je dirais ce que j'appelle le jeu des trois familles, c'est-à-dire le catholicisme bourgeois, le libéralisme catholique et l'antilibéralisme catholique, introduit à cette considération qui va être importante, c'est qu'en fait, libéralisme catholique et antilibéralisme catholique sont... par un clin d'œil de la Providence, naît de la même source. Non seulement de la même source intellectuelle, mais du même personnage qui s'appelle Félicité de Lamennais. Mais d'abord de la même source intellectuelle, c'est-à-dire que, d'après ce que disent les sociologues comme Émile Poula, le libéralisme catholique comme l'antilibéralisme catholique sont ici de la souche intransigeante. La souche intransigeante se définit comme ça,
oui,
par
vous
opposition.
Vous appelez ça l'intransigeantisme.
Voilà. par opposition au catholicisme bourgeois. Le catholicisme bourgeois, c'est je mets une part de l'enseignement catholique comme étant non pertinent et je me réfère au reste. Le catholicisme intransigeant, d'où est sorti et le libéralisme catholique et l'antilibéralisme catholique, d'ailleurs d'abord l'antilibéralisme et ensuite le libéralisme, eh bien c'est toute la foi dans toute la vie. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de part à la vie chrétienne, que ça soit dans le domaine, on parlait économique, des mœurs, peu importe, des relations sociales, tout doit être irrigué par la foi. Mais il y a effectivement une rupture, une opposition entre deux façons d'aborder la chose, qui sont issues, encore une fois, du même maître, qui s'appelle Félicité de Lamennais.
Oui. Félicité de Lamennais... Vous en parlez beaucoup.
Voilà, qui est l'homme, évidemment, qui concentre en lui, puisqu'il va avoir, si vous voulez, trois phases. Une phase nettement antilibérale, il écrit dans le drapeau blanc, le légitimiste, ah oui, etc.
C'est un esprit brillant.
Voilà. Mmh. Ensuite, il a une phase libérale, c'est l'avenir, hein. Dieu et la liberté, c'est le sous-titre du journal L'Avenir. Et puis finalement, il va quitter l'Église, il va tomber dans le socialisme humanitaire à saveur
avec
chrétienne.
Avec parole de croyant.
Voilà, parole d'un croyant et autres. Voilà. Et donc, effectivement, si vous voulez...
Il pensait que l'Église allait reprendre le flambeau, au fond, des libertés révolutionnaires.
Alors, si vous voulez, au départ, il compte sur les rois. Les rois qui vont faire alliance avec le siège apostolique, parce qu'il est ultramontain, vont faire alliance avec l'autre, pour recréer, si vous voulez, une chrétienté. Et puis la restauration n'en a pas du tout l'intention, même à Charles X n'a pas du tout l'intention d'agir comme ça. Charles X est encore un gallican, etc. Donc il est déçu, ça vaut rien du tout. Donc vers 1830, quand finalement la restauration s'effondre au profit de la monarchie de Juillet, il vire de bord et il dit non, faut pas s'occuper des rois, ce sont les peuples. les peuples et le pape, si vous voulez, qui vont faire alliance et qui vont faire une nouvelle chrétienté ensemble. Simplement, il s'aperçoit que la révolution a ouvert la voie au libéralisme, et il s'aperçoit que ce libéralisme s'est répandu, et que donc s'il veut fédérer les peuples, il faut qu'il accepte ses libertés libérales, et donc il choisit d'être pour la liberté de culte, pour la séparation de l'Église et de l'État, tout ce que vous voulez, et il espère que le pape, qui était Grégoire XVI à l'époque, va se rallier, ce qui est évidemment pas plus que Charles X n'allait se rallier à ça, pas plus le pape Grégoire XVI allait se rallier à ça. Et donc effectivement, il est déçu, finalement il est condamné par l'encyclique Mirari Vos, même s'il n'est pas cité, mais c'est explicite de la part du secrétaire d'État que c'est lui qui est visé, et donc il va là, à ce moment-là, quitter l'Église. Mais c'est ce qui est très important, et c'est à son honneur, il va dire à ses disciples « ne me suivez pas ». Ne me suivez pas, d'accord ?
Ce que vous expliquez avec la cordère qui a plutôt pris quelques distances.
Voilà, et donc, si vous voulez, tous ces disciples, c'est beau hein, en quelque sorte, tous ces disciples sont restés catholiques. Tous ces disciples sont restés catholiques, mais certains ont suivi sa première période, les antilibéraux,
c'est ça.
Et d'autres ont suivi sa deuxième période, les libéraux. Donc, les antilibéraux, vous avez Don Guéranger, vous avez, Melchior Dulac, vous avez des gens comme ça. Et puis, les libéraux, tout le monde les connaît, Montalembert, Lacordaire, Ozanam, etc.
Alors, la troisième voie, telle que vous la définissez, est-ce que c'est une tentative de conciliation entre...
Alors, la troisième voie, c'est-à-dire le catholicisme de bourgeois ou... Alors, c'est quelle page ?
C'est page 71.
Alors, 71, excusez-moi, que je me rappelle.
Le point de départ du catholicisme libéral est en fait le même que celui du catholicisme bourgeois et de l'antilibéralisme. Comment vivre en catholique dans une société issue de la Révolution française, société fondée sur des principes du libéralisme ? Comment se positionner face à cette nouvelle société libérale et à ses principes ?
Voilà. Alors effectivement, donc si vous voulez, vous avez donc le catholicisme bourgeois qui dit ben, on va faire une part et puis on sera tranquille. Donc ça, le catholicisme libéral ne l'accepte pas parce qu'il est intransigeant toute la foi dans toute la vie, mais il y a en face de là l'antilibéralisme qui combat frontalement la société issue de la Révolution. Le catholicisme libéral, lui, son approche est la suivante, il dit regardez, il y a des valeurs dans le libéralisme, enfin porté par le libéralisme, accepté par le libéralisme, prôné par le libéralisme, arrivant en même temps que le libéralisme, peu importe, qui en fait, si vous les examinez bien, soit sont d'origine chrétienne, telles que par exemple l'égalité, admettons, soit sont compatibles avec le christianisme. Et donc, dit le libéralisme catholique, il faut faire de la, faut faire la discrimination entre ce qui est insupportable et intolérable et ce qui en fait peut être accepté, voire remis en place, parce que ça fait aussi partie de la synthèse catholique. Donc, en réalité, les libéraux catholiques, qui sont conscients d'eux-mêmes, sont des gens qui refusent d'être des libéraux. Ils disent, nous ne sommes pas des libéraux, nous repérons dans le flot arrivé par le libéralisme, si vous... admettons par exemple, ce n'est pas notre sujet parce que ce n'est pas religieux, mais si vous voulez, la Révolution française a mis l'égalité devant l'impôt. Bon, ben on peut très bien dire, oui, c'est une façon de faire tout à fait acceptable.
La méritocratie.
Voilà, tout à fait acceptable. On ne va pas le refuser par principe en disant, autrefois c'est comme ça, il faut toujours être comme autrefois.
L'abolition des privilèges.
Voilà, c'est pas un problème. Oui. Bon, donc, c'est pas notre sujet, parce que ça, c'est de la pure politique et de la pure fiscalité. Mais, si vous voulez, ils vont dire, par exemple, admettons, la liberté de la presse, qui arrive... si vous voulez, dans le flot de la Révolution française et de ses suites, eh bien, est-ce que c'est en soi mauvais ou est-ce que c'est mal utilisé aujourd'hui, mais ça peut avoir un bon sens.
Liberté de conscience.
Voilà, ou la liberté de conscience ou des choses comme ça, si vous voulez. Et donc, les libéraux catholiques disent, il faut faire, je dirais, il faut dégager ces valeurs qui, en fait, sont soit d'origine catholique, soit compatibles avec le catholicisme, du libéralisme, de façon à les réintégrer dans la synthèse catholique et finalement avoir vraiment, je dirais, un monde catholique, mais qui a évolué par rapport à un certain nombre de points sur lesquels, comme, si vous voulez, on est passé de l'art roman à l'art gothique, ou découvert la roue, etc. Et on n'a pas dit, non, la roue, c'est antichrétien. C'est-à-dire, c'est pas la question.
Louis Veuillot a des paroles très fortes là-dessus.
Alors,
quand il explique que le catholique libéral n'est ni catholique ni libéral, ou qu'il dit, il écrit dans l'univers, que les catholiques libéraux ne sont pas hérétiques. Je ne dis point que les catholiques libéraux sont hérétiques, il faudrait premièrement qu'ils voulussent l'être. De beaucoup d'entre eux, j'affirme le contraire. Des autres, je ne sais rien, et ce n'est pas à moi de les juger. L'Église prononcera s'il y a lieu, lorsqu'il sera temps. En revanche, écrit-il, ils sentent l'hérésie. Bien entendu, cette affirmation, écrivez-vous, va être démontrée, argumentée dans l'ensemble, comme dans le détail, par les antilibéraux. Mais elle est sans doute la note doctrinale que ceux-ci attribuent à leurs adversaires.
Alors voilà, qu'il faut savoir que Sapiens Hérésim est une note de censure de l'Église qui a été utilisée au cours des siècles par l'Église. Et donc c'est à ça que fait allusion Veuillot. Qui ne l'écrit pas dans l'univers, ça aussi c'est important, puisque je rappelle que l'univers a été supprimé pendant 7 ans par l'Empire de Napoléon III pour avoir soutenu Mordicus le pape. Ce qui est très important, puisque en réalité, une partie de l'opposition vient du ralliement ou non au Second Empire, après la République de 48, et que, effectivement, Louis Veuillot, qui a dit « je me rallie », grosso modo, je me rallie parce que l'Empire défend le bien, va contredire l'Empire lorsqu'il considère que et au point de perdre son journal pendant 7 ans. Et donc là, c'est une brochure. Oui. C'est une brochure qu'il écrit à la suite, là aussi, du grand document antilibéral catholique qui s'appelle le Syllabus. C'est donc l'erreur libérale. C'est une brochure que
le Syllabus de Pie IX.
Voilà, le Syllabus de Pie IX.
Pie IX qui était plutôt libéral au départ.
Alors,
on va en parler.
Voilà.
Cher monsieur l'abbé, donc, nous sommes sur l'antenne de Radio Courtoisie. Rappelons que Radio Courtoisie ne vit que de ses auditeurs et que nous nous entretenons autour de votre livre L'école de l'antilibéralisme catholique, paru chez Ora Decima il y a peu.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Chers auditeurs et auditrices, nous retrouvons donc Monsieur l'abbé Grégoire Cellier pour sa réflexion, comme vous l'avez constaté, bien et dûment charpenté sur l'école donc, de l'antilibéralisme catholique. Un livre extrêmement abordable, de près de 200 simples, plus de 250 pages, mais dont je crois que les auditeurs feront leur miel, parce qu'il existe vraiment très peu, voire pas du tout, d'études de cette nature aujourd'hui en France.
Non, malheureusement, effectivement, l'école antilibérale a été abandonnée par l'historiographie, alors que l'école libérale a beaucoup, beaucoup de publications autour de son histoire et de sa doctrine. Et donc, ce livre veut combler un vide sur une question importante, ne fût-ce que d'un point de vue historique. L'école antilibérale est une grande école puissante. Elle a, pour le moment, je dirais, est perdue, si vous voulez, elle est vaincue de l'histoire, mais elle continue en fait à exister sous d'autres formes, et en tout cas, elle a eu un rôle important, et elle ne peut pas, je veux dire, on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé au 19e si on...
Et on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans l'étudier. Voilà. Alors je vous ai un peu provoqué tout à l'heure, en vous disant que le pape Pie IX... avait été un peu contaminé par le libéralisme.
Voilà, alors en réalité...
En tout cas, au début de son règne, on a même songé à faire de lui le roi d'Italie.
Voilà, alors si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, on est dans l'ordre de la politique.
C'est ça.
C'est-à-dire que les états pontificaux se trouvaient au milieu donc, d'une évolution des Italies, comme on disait, Italies qui étaient en train de s'unifier, si vous voulez, sous la domination du roi du Piémont. Bon. Mais
Expansion du nationalisme.
Voilà. Par ailleurs, si vous voulez, les États pontificaux n'étaient pas toujours super bien gérés. Bon, par exemple, le pape Grégoire XVI avait refusé le train, etc., avec les chemins de fer, tout ça. Donc il arrive avec quand même une vision réformatrice des États pontificaux s'inscrivant dans cette Italie nouvelle auquel il correspondait parce que voilà effectivement il y avait une sorte de patriotisme italien qui est pas complètement stupide et bon Et il a tenté des réformes, mais il a tenté des réformes dans un moment, si vous voulez, où déferle une révolution libérale.
Bien sûr.
Donc, c'est-à-dire autour de 48, lui arrive en 46, mais autour de 46-48, si vous voulez, qui balaye l'Europe et qui fait s'écrouler tous les gouvernements, ou en tout cas tous les gouvernements donnent une charte libérale. Et puis vers 1852, c'est le cas évidemment en France avec le Second Empire, vers 1852, je dirais, les anti-révolutionnaires ont regagné le terrain, si vous voulez. On est plutôt dans le monde autoritaire. Mais donc, il a tenté une réforme de ses États, une amélioration technique, etc. Il faut savoir que ça s'est assez mal passé, mais finalement, il a embauché un de ses opposants, Rossi, qui en même temps était fidèle, si vous voulez, a voulu être fidèle, qui était donc, on va dire, son premier ministre. Et ce gars-là était assez habile et ça a commencé à bien marcher, mais il a été assassiné, n'est-ce pas ? Et donc, tout ça s'est effondré. Et finalement, Pie IX a dû s'enfuir à Gaète, dans lequel il reviendra grâce aux troupes françaises, hein, de l'empereur, enfin du futur empereur, c'est encore le président. Mais donc, à partir de ce moment-là, évidemment, il sera moins porté, si vous voulez, à des réformes, parce qu'il en a subi les conséquences et que ça l'a quand même traumatisé. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais de la politique.
Oui.
Égalité devant l'impôt, système judiciaire moderne, tout ce que vous voulez, ça ne touche pas à l'enseignement doctrinal.
C'est cela.
Voilà.
Et l'encyclique Libertas.
Ah, ça, c'est Léon XIII.
C'est Léon XIII. Mais Grégoire XVI, si je me souviens bien, avait déjà parlé de mensonge universel à propos du suffrage universel.
Voilà, alors là oui. Vous êtes effectivement dans Mira Rivos, il y en a une autre qui est à Vos aussi, mais dont le nom m'échappe. Donc, il parle par rapport justement à ces libertés modernes, liberté de la presse, liberté de conscience, liberté des cultes, etc., si vous voulez. Mais,
est-ce que c'est le début de la réaction de l'Église à travers des encycliques contre le libéralisme?
Alors, si vous voulez, le syllabus crée le modèle de l'encyclique moderne qu'évidemment, le grand fondateur de cela, c'est Léon XIII. À la suite de ça, Léon XIII qui va faire des encycliques majeures de façon méthodique en tout simplement en utilisant les travaux du Concile Vatican I qui s'est interrompu à cause de la prise de Rome par les troupes piémontaises. Donc, il va donner, si vous voulez, un enseignement systématique, mais celui qui a créé l'encyclique qui va réagir mondialement, si vous voulez, l'encyclique que tout le monde lit, parce qu'avant, vous avez, je sais pas, Benoît XIV a fait des encycliques, tout ça, mais bon, c'était comme ça, je veux dire, ça ne portait pas à conséquence, c'était juste une façon... Bon. Tandis que le syllabus, contrairement d'ailleurs à l'intention de Pie IX, puisque normalement, ce document-là devait sortir en 1854, et il est sorti en 1864. Il y a eu 10 ans de plusieurs tentatives de rédaction dont on n'était pas satisfait, justement ne voulant pas provoquer. Et finalement, Pie IX et son équipe, si je puis dire, a une idée génialissime. Il dit, on va juste faire une table des matières de ce que j'ai déjà dit. Donc c'est inoffensif, personne ne va crier puisque je l'ai déjà dit. Et donc, ils font une table des matières.
C'est ce que vous appelez le catalogue des erreurs modernes.
Voilà, c'est comme ça. Le syllabus, ça veut dire catalogue. Oui. Syllabus, ça veut dire catalogue des erreurs modernes. Mais... Oui. Ils le font à partir des textes de Pie IX. Simplement, entre un discours qui fait 15 pages et juste une proposition qui en est tirée, ça fait une autre impression.
Ça prend une force.
Voilà. Et donc, en fait, cette encyclique et ce syllabus, Cantacourt a une encyclique auquel est annexé le syllabus, qui devait passer tranquillement, etc., ça a provoqué la plus formidable explosion de toute l'histoire de l'Église en matière de texte, puisque même Humanae Vitae en 1968 par Paul VI sur la contraception, qui a fait un scandale mondial, a fait un scandale moins important que le syllabus.
Oui.
Parce que c'est arrivé, si vous voulez, et c'était bref, clair, c'est tombé. Et en même temps, c'est évidemment le drapeau des antilibéraux.
Et puis, on peut dire qu'elle abordait tous les aspects du libéralisme.
C'était méthodique.
Bien dans les sciences même que dans les la pure théologie, Alors, on peut dire qu'en plus, Pie IX ne va pas arranger les choses, puisque Pie IX va reprendre à son compte toutes les, justement tout ce qui est dit dans le syllabus.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Léon XIII...
Le pape Saint-Pédis est peut-être le chantre absolu de l'antilibéralisme.
Voilà, j'ai quand même mis en exergue de ce livre une phrase de Léon XIII.
Oui.
Car Léon XIII, contrairement à ce qu'on dit et à ce qu'on croit, est un pape très antilibéral.
Oui, parce qu'on parle du pape du ralliement.
Voilà,
sans
mais
arrêt,
ça c'est français, franco-français. Oui, 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 oui. C'est une manœuvre politique italienne. Oui. Il faut bien comprendre. Parce que les Italiens, il faut savoir que le roi dit d'Italie, le roi de Piémont, d'accord, était excommunié. D'accord, il était excommunié puisqu'il avait
sûr,
après.
Bon,
ça ne l'a
la
jamais.
Famille de Savoie.
Voilà, ça ne l'a jamais empêché de faire ses Pâques. Oui. N'oublions pas ça. C'est l'Italie. C'est la combinazione.
On pouvait être excommunié en faisant ses Pâques.
Voilà, c'est la combinazione. Il y a d'accord. toujours des solutions. Mmh. Et donc le ralliement, c'est qu'une combinazione de Léon XIII. Qui croit
qui
être...
assistant à la division et à l'impossibilité de voir les catholiques rétablir la monarchie.
Voilà,
il faut trouver une autre solution.
Mais sauf qu'il tombe non pas chez des Italiens dans lesquels la combinazione fait partie de la vie, mais chez des Français un peu rigides et cartésiens. Et donc ça s'est très mal passé. Mais bon, ça c'est je dirais ça se discute le ralliement, le paralliement, tout ce que vous voulez. Mais Léon XIII dans ses sens cycliques, c'est systématiquement le développement du syllabus. Il y a rien à faire si vous voulez. Et ensuite Saint Pédis. Si vous voulez, en fait, est moins politique, si je puis dire, que Léon XIII, dans le sens, quand je dis politique, c'est-à-dire en faisant un enseignement à l'ensemble parce que la lutte contre le modernisme est plus spécifiquement théologique et ecclésiastique, en réalité.
Oui,
vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, le grand pape...
Oui, il est beaucoup moins politique, effectivement.
Voilà, le grand pape antilibéral, doctrinal, c'est Léon XIII. Hein, bien entendu, Pie IX en a posé les fondements avec le syllabus et d'autres documents, mais Léon XIII a développé l'encyclique Libertas sur la liberté, évidemment le retour à saint Thomas, évidemment sur la constitution chrétienne d'Iturnum Illud et Immortalis Dei, la constitution chrétienne des États, sur la franc-maçonnerie, sur tout ça, il développe un discours très antilibéral, même si sa pratique en France... va aboutir à quelque chose qui ne fonctionne pas bien, mais ça, c'est une manœuvre politique, on ne va pas confondre avec son enseignement doctrinal.
Oui, effectivement, ça n'a pas fait rentrer un maximum de députés catholiques qui ont changé la Terre.
Voilà, mais
on est en France.
On est en France, un pays très politique, un pays très où les oppositions sont très fortes et où la combinaison... Non mais
disons où la République est une religion.
Voilà. Voilà, regardez les évolutions politiques italiennes et des alliances improbables, incroyables, je veux dire, qui ne pourraient pas exister en France. Donc, si vous voulez, Léon XIII était un Italien et il comprenait pas cette mentalité française très typique et donc il s'est un peu planté, si vous voulez.
Alors il y en a un qui finalement a peut-être trouvé le remède qui demeure actuel à ce libéralisme. Aussi bien d'ailleurs religieux que philosophique, que théologique, c'est le pape Pie XI avec son idée de royauté sociale du Christ.
Voilà, alors effectivement, Pie XI, lui aussi, fait une manœuvre, mais elle est une manœuvre mondiale, plus mondiale, même s'il va y avoir effectivement la condamnation de l'action française qui fait partie, si vous voulez, de cette manœuvre, mais elle a aussi l'incompréhension de la France, hein, c'est un Italien qui ne comprend pas la France, bon c'est comme ça. Je comprends pas la mentalité française, mais je dirais, lui, il va... Alors, ce qui est typique de Pie XI, c'est que finalement, il reprend l'idée de Lamennais, c'est-à-dire qu'il va mobiliser la foule catholique à travers l'action catholique. L'action catholique va mobiliser, la plèbe catholique dans le monde entier pour changer les choses en faveur du règne du Christ roi. Simplement, moi, si vous voulez, dans ma réflexion sur l'action catholique, parce que je me dis, ça a été soutenu, c'est Saint Pédis qui lance l'idée, Pie XI la développe, etc. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'il faut en penser, ceci ou cela. Je pense qu'il y a une erreur de fond.
Ah.
C'est, si vous voulez, c'est que il y a une forme de cléricalisme. C'est-à-dire que c'est les curés qui dirigent les laïcs. Alors, c'est tout à fait justifié dans l'ordre, dans l'ordre religieux, ça c'est normal, si vous voulez. Mais dans l'ordre politique, surtout dans l'ordre politique démocratique, ça ne va pas. Alors, finalement...
Oui, mais ce règne social du Christ, normalement, doit infuser même chez les politiques.
Oui, mais donc, normalement, ce devrait être les catholiques je dirais, laïque, librement, en tant que catholique laïque, mais pas sous la domination des curés, qui devraient agir. Alors, comme ils veulent pas non plus faire un mouvement catholique qui soit purement politique, et en même temps qu'ils veulent pas laisser la liberté aux catholiques de s'organiser par eux-mêmes, hein, alors ils ont inventé la notion de civique, qui est une notion mi-chèvre mi-chou, qui a pas grand sens. Il faut être civique, alors il faut sans prendre des choix politiques, si vous voulez. Et alors en Allemagne, c'est ça qui est intéressant, le Zentrum, le parti qui est à l'origine de l'actuel CSU et CDU, hein, le parti catholique allemand du 19e siècle, c'est un parti qui, lui, est catholique, mais qui fait des choix politiques.
C'est ça.
Qui dit, ben voilà, nous prenons telle ou telle chose, la TVA à 15%, la TVA à 20%, peu importe, et qui ne reste pas dans le civique, c'est-à-dire quelque chose un petit peu, rien du tout, quoi. Ça.
Non, et puis, il faut reconnaître que ça adjoint à ce problème du libéralisme, le problème du laïcisme en France.
Voilà, alors,
c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs ce que vous venez de développer, à savoir que finalement, Pie XI, de ce point de vue-là, ne s'est pas rendu compte qu'avec cause de ce laïcisme d'État, toute action catholique devenait trouver sa pierre d'achoppement.
Ah ben, disons que Pie XI voulait que ça infuse jusqu'en politique, oui. N'est-ce pas ? Mais en fait, effectivement, la séparation de l'Église et de l'État de 1905 est très claire. Oui. Hein, l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Oui. Et donc, effectivement, il ne peut pas y avoir d'action proprement catholique à l'intérieur de la politique au sens propre, si vous voulez. Puis, donc, si vous voulez, le catholique en politique, il doit se présenter comme démocrate chrétien ou de droite ou républicain ou tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas se dire « je suis le parti catholique qui fait des choix politiques X ou Y, la TVA à 15%, la TVA à 20%. »
Et il y a un texte, d'ailleurs, que vous citez, un texte très intéressant, de Pie IX, qui, je reviens un petit peu en arrière, mais « Mes chers enfants, s'écrit Pie IX, il faut que mes paroles vous disent bien ce que j'ai dans mon cœur, ce qui afflige votre pays, la France, et l'empêche de mériter les bénédictions de Dieu, c'est ce mélange des principes. Je dirai le mot et je ne tairai pas ce que je crains et je ne le tairai pas. Ce que je crains, ce ne sont pas tous ces misérables de la Commune de Paris, vrais démons de l'enfer qui se promènent sur la terre. Non, ce n'est pas cela. Ce que je crains, c'est cette malheureuse politique, ce libéralisme catholique qui est le véritable fléau. Je l'ai dit plus de 40 fois, je vous le répète à cause de l'amour que je vous porte. Oui, c'est ce jeu de bascule qui détruit la religion. Il faut sans doute pratiquer la charité, faire ce qui est possible pour amener ceux qui sont égarés. Mais pour cela, il n'est pas besoin de partager leurs opinions.
Voilà, effectivement, si vous voulez, l'une des critiques fondamentales que fait l'antilibéralisme au libéralisme catholique, c'est qu'effectivement, pour arriver à se faire bien voir, ils mettent systématiquement de l'eau dans leur vin, ils mettent la poussière sous le tapis, etc. Au lieu de s'affirmer tranquillement catholique, et ensuite, bien entendu, éventuellement de faire une alliance à tel ou tel moment. Saint Pie X, si vous voulez, vous vous souvenez qu'en Italie, le principe après la prise des États pontificaux par le roi du Piémont était donc ni électeur ni élu. On ne pouvait pas élire quelqu'un et on ne pouvait pas être élu. Et Saint Pie X, bien sûr, avec l'autorisation du pape, hein, donc lui, au début du XXe siècle, eh bien, fait une alliance à Venise, il est patriarche de Venise, c'est une alliance entre les catholiques et les libéraux, d'accord, pour virer les radicaux, d'accord. Donc, effectivement, il est tout à fait envisageable de faire une alliance politique à un moment, électorale, voilà, c'est pas scabreux, à partir du moment où on met pas son drapeau dans sa poche. Or, vous regardez les héritiers des démocrates chrétiens, donc des libéraux catholiques, Monsieur Bayrou, par exemple, prenons-le, le modem. Si vous voyez quelque part que c'est catholique, montrez-le-moi.
Alors que c'est un exemple parfait que vous prenez là, puisque il, tout en pratiquant tous les dimanches, effectivement, et en priant, je l'ai entendu hier soir dire qu'il priait tous les jours, il est capable de dire qu'il met une cloison totalement étanche entre sa vie personnelle et sa vie politique, sociale, etc.
Voilà.
Ça nous renvoie Ah, d'ailleurs, à Marc Sangnier, d'une certaine manière.
C'est la même filiation. C'est la même filiation qui, effectivement, intériorise le laïcisme. Le laïcisme, en disant, eh ben voilà, mes choix ne sont pas dictés par ma foi. Ben si, mes choix sont dictés par ma foi, même si, évidemment, à tel ou tel moment, je devais faire une alliance avec des gens qui ne partagent pas ma foi, parce que la diversité des religions en France, c'est une réalité, si vous voulez, et que voilà, pour faire des majorités, il faut faire des alliances, mais des alliances en restant ce qu'on est et non pas en cachant son drapeau.
Il faut, dites-vous en conclusion, étudier les antilibéraux. Continuer les antilibéraux, remplir nos devoirs, être zélé pour la maison de Dieu, pratiquer le véritable amour du prochain, glorifier les hommes calomniés, voilà, qui n'hésitèrent pas à braver l'impopularité, imiter leur exemple. Voilà. Donc, je tiens vraiment à renvoyer, puisqu'il nous reste très peu de temps, les auditeurs à ce magnifique ouvrage de piété. Aurait dit Jean Madiran.
Voilà, si vous voulez, mon éditeur, lorsque je lui ai soumis le livre, si vous voulez, m'a dit, à la fin, vous êtes quand même très pro-antilibéraux, etc. Est-ce que c'est pertinent, etc. Alors, j'ai reçu cette réflexion. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. J'ai réfléchi, je me suis dit, peut-être, il faudrait être plus scientifique, plus objectif. Puis je me dis, comment ils ont été traités? Oui. Comment sont traités les libéraux, les laïcs, etc., qui sont tous glorifiés? Pourquoi est-ce que nous, qui sommes de cette école-là, pourquoi on ne glorifierait pas nos grands anciens, qui sont méprisés, calomniés, que c'est injuste? C'est injuste. On peut toujours discuter.
Il y a des dizaines de noms que l'on va redécouvrir en lisant votre ouvrage. Ouais. Et je dirais même que parmi ces dizaines de noms, il y en aurait qui mériteraient d'avoir leur rue.
Leur biographie, qui soit connu, quoi.
Alors, je rappelle, monsieur l'abbé, votre livre, L'école de l'antilibéralisme catholique, aux éditions Aura Decima, que l'on trouve dans toutes les bonnes librairies et que l'on peut commander chez L'Homme Nouveau.
Voilà.
Et peut-être d'ailleurs chez vous.
Chez L'Homme Nouveau. Non.
Bon, chez L'Homme Nouveau. Ouais. Il est donc vendu 22 € et je conseille vraiment, j'invite vraiment tous les auditeurs à redécouvrir cette école et véritablement à retrouver ce sens du beau, du vrai et du bien à travers vos ouvrages.
Merci beaucoup.
D'entendre Au fil des pages, dirigé par Benoît Moncheron, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 1er avril 2026, de 10h à 11h, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.